cher Daniel, une petite remarque qui me semble être de bon sens. Pendant la période de froid, REDF, je crois, nous signalait que notre capacité de production avait atteint ses limites. La raison principale qui transparaissait en était le chauffage électrique, vanté et vendu pendant des années, afin de justifier le nucléaire. La tempête de vent de ces jours-ci, qui a entraîné une panne géante d'électricité, en laissant des milliers d'habitations sans chauffage et obligeant à se dépanner avec des groupes électrogènes. Toutes ces habitations ont souvent été construites à bas prix, sans conduite cheminée, donc pas de chauffage alternatif possible. Nous sommes dans l'aberration complète avec cette politique incapable d'anticiper au-delà de 5 ans. Coupable du dérèglement climatique de la planète qui va voir de plus en plus ce genre de phénomène se produire. Je vous rappelle qu'en 99, on nous avait annoncé une tempête centennale. Et il n'y a même pas 10 ans de cela. C'est bien d'avoir un président suivi de sa suite au milieu des décombres. Mais la culpabilité de cette politique irresponsable est en amont. Il serait opportun d'arrêter de gesticuler afin d'anticiper les conséquences de cette gestion productiviste débridée. La planète ne suivra pas. Allez, ne baissons pas les bras. Salut à tous. Au revoir.
Salut aux AMG, c'est-à-dire aux actionnaires modestes et gavés. Oui, donc je téléphone parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui se font du souci, qui se demandent comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont avoir des dividendes. Alors rassurez-vous, je constate dès ce matin que BNP Paribas qui a obtenu 2,55 milliards d'euros à titre d'aide de l'État, fait cette année, pour 2008, 3 milliards d'euros de bénéfices qu'il pourra redistribuer à ses actionnaires. Même chose pour la Société Générale, qui a obtenu 1,7 milliard d'aides de l'État et fait 2 milliards de bénéfices qui seront évidemment redistribués aux actionnaires. Donc, nous n'avons pas de soucis à nous faire, tout ça est bien géré. Et puis, si l'État a un petit peu de soucis, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on supprime des fonctionnaires, on supprime des aides à ces putains d'assistés, et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Putain, j'y crois pas. Allez, c'était Jean-Baptiste à Lyon. Courage, fuyons.
Bonjour, castrées et castrés du Tarn. Vous rêviez d'un repère? Alors, à vos oreilles, à vos crayons. Où? Au Kiwi Bar chez Johan, 33 place de l'Albinque, juste à côté de l'église. Quand? Le mardi 27 janvier. À quelle heure? 19h30. Claire, Wilfried, Anna et peut-être Bruno vous attendent demain, le mardi 27 janvier à 19h30 au Kiwi Bar pour le premier repère de Castres dans le Tarn. Au revoir, à bientôt.
Bonjour Daniel Mermet et toute son équipe, c'est André Marty de Caen. Moi j'appelle pour dénoncer cette injustice perpétuelle et internationale à citer le Hamas comme toujours responsable du massacre à Gaza. Il faut rendre à César ce qui est à César. Les bombes au phosphore, les F-16, les drones, les bateaux, les navires de guerre, qui détiennent et usent de cela. Il faut dénoncer. Il y a des centaines d'enfants qui sont morts. J'ai l'impression que la presse française, surtout, tourne à l'envers. Parce que personne ne dénonce cela. Et là, maintenant, eh bien, on a tendance à oublier qu'il y a encore des gens qui sont dans les hôpitaux à Gaza, des gens qui meurent, des gens qui n'ont rien. Et on fait tout en sorte pour oublier cela. Et il faut dénoncer donc l'État d'Israël comme un État terroriste qui a commis des actes de guerre. Parce que quand j'entends les représentants de la communauté européenne qui dénoncent le Hamas comme responsable, c'est vraiment inacceptable. Et moi, je ne veux pas être un Européen qui va aller dans ce sens-là. Je suis un Européen qui a une mémoire pas sélective, mais juste. Et De Gaulle nous a donné donc à réfléchir sur ce qui s'est passé dans les temps passés. Et j'aimerais bien que les gens en France ne l'oublient pas. Je ne suis pas pétainiste, non, pas du tout. Ni gaulliste. Moi, je suis pour la résistance lorsqu'elle est juste. Au revoir, Daniel.
Ouais, salut Daniel, c'est Renaud à l'appareil. J'appelle pour relire une déclaration de Nicolas Sarkozy qui a été trop peu relayée. C'est au sujet des intempéries. Voilà, je le cite. Les intempéries dérégulées caractérisées par des vents rapides et des précipitations intenses, c'est un système d'irresponsabilité. Je vais employer un mot fort, c'est un système amoral, où la logique de la tempête excuse tout. C'est un système où le vent nourrit le vent, où le beau temps est déprécié, où des loisirs d'extérieur, notamment le pédalo, sont dépréciés. Mais la crise des intempéries dérégulées, ce n'est pas la crise des intempéries. Le remède aux intempéries que nous avons connu vendredi dernier, ce n'est pas l'antimétéorologie. L'antimétéorologie est une impasse. L'antimétéorologie, c'est la politique du parasol tout le temps, toute l'année. La crise des intempéries dérégulées n'appelle pas à la destruction de la météo, qui serait une catastrophe naturelle, mais à sa moralisation. C'est une deuxième chose sur laquelle je veux me battre. On doit moraliser les intempéries, non pas les détruire. Et voilà le défi, Angela, auquel nous sommes confrontés. Il ne faut pas rompre avec les intempéries, il faut les refonder. Voilà, bah, je pense que tout est dit, non ?
Le capitalisme purement financier, c'est un système d'irresponsabilité, j'ai employé un mot fort, c'est un système amoral, où la logique des marchés excuse tout, c'est un système où l'argent va à l'argent, où le travail est déprécié, où la production est dépréciée, où l'esprit d'entreprise est déprécié. Mais la crise du capitalisme financier n'est pas la crise du capitalisme. Le remède à la crise que nous connaissons n'est pas l'anticapitalisme. L'anticapitalisme, c'est une impasse. La crise du capitalisme financier n'appelle pas à la destruction du capitalisme qui serait une catastrophe, mais à sa moralisation. C'est une deuxième chose sur laquelle je veux me battre. On doit moraliser le capitalisme, non pas le détruire. Et voilà le défi, Angela, auquel nous sommes confrontés. Il ne faut pas rompre avec le capitalisme, il faut le refonder. Et je dis à mes propres amis en France qui ne sont pas d'accord avec cette expression « refonder », s'ils n'adoptent pas la refondation du capitalisme, alors ils font le lit de ceux qui veulent détruire le capitalisme.
Alors, Renaud ou Nicolas, quel est le plus facétieux des deux ? Eh bien, ça, c'est à vous de choisir. En tout cas, je peux vous dire que la facétie de Nicolas date du 8 janvier 2009. C'était un discours lors d'un grand colloque sur la refondation du capitalisme. Merci en tout cas pour vos messages que je reçois ici, 5 sur 5, à Miami, Florida, où nous sommes pour quelques heures dans notre quête ou enquête, comme on voudra, sur le lobby pro-israélien. Le lobby pro-israélien, c'était le titre d'un livre paru en France il y a 2 ans, après qu'il ait fait beaucoup de bruit aux États-Unis, par l'éclairage qu'il apportait sur le lien inconditionnel entre les États-Unis et Israël. Alors on enquête là-dessus et on va voir que ce ne sera pas sans conséquence sur la politique française, probablement. En tout cas, il s'agit d'un tabou qui a été, sinon peut-être pas abattu, mais que les auteurs de ce livre ont eu le courage d'aborder et qui a eu beaucoup de conséquences. Alors on est ici à Miami, et Miami, comment ne pas penser à Cuba ? D'abord parce qu'il y a beaucoup de Cubains qui vivent ici, Miami c'est évidemment Little Havana, mais Cuba c'est de l'autre côté, c'est sur la ligne d'horizon, c'est pas loin d'ici. Et Cuba c'est Guantanamo, et Obama a promis que Guantanamo serait bientôt fermé pour montrer au moins symboliquement le changement d'époque. On avait reçu, dans la base où j'y suis, un garçon, Mourad Kournaz, qui avait apporté un témoignage particulièrement étonnant, stupéfiant sur ce qui se passait à Guantanamo. Et je vous propose aujourd'hui de revenir sur ce que ce garçon de Brême, en Allemagne, nous avait alors raconté. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous, voilà, je vous appelle de Guadeloupe, je ne sais pas si les médias s'en font l'écho, mais on vit une situation un petit peu ubuesque, hein, dans la mesure où l'île est complètement paralysée par une grève générale. J'ai l'impression que c'est vraiment dans un silence total et absolu. J'essaie de me rendre à mon boulot, tout est bloqué, des barrages sauvages sont érigés un peu partout. je vous appelle en direct parce que je suis en plein dedans. Les gens sont quasiment hystériques, c'est extrêmement curieux et difficile à vivre. Voilà, je voulais simplement dire qu'en Guadeloupe, c'est le bordel. Je pense qu'en métropole, ça va pas tarder à arriver. Je vous souhaite bon courage à tous, bon courage. Excusez mon émotion, c'est Joël de Guadeloupe. Bye bye.
Bonjour à toute l'équipe, je vous appelle pour vous signaler et vous confirmer qu'à Questembert, dans le Morbihan, la projection du film Chomsky et compagnie aura lieu le mercredi 28 à 20h30 en présence du réalisateur Olivier Hazan. La projection sera suivie d'un débat et nous vous espérons nombreux. Au revoir.
Bonjour, je vous téléphone au sujet d'une affiche qui est affiché dans la synagogue de Strasbourg, de la communauté israélite. Il y a une affiche pour recruter des auxiliaires de l'armée israélienne qui vient de massacrer 1200 personnes ou plus, et sans compter les blessés. Et donc ce lieu de culte, et sur le fronton il y a inscrit « Synagogue de la paix », donc cette institution religieuse et confessionnelle diffuse des flyers pour appeler à rejoindre Tsahal. Alors je vous lis, des dizaines de milliers l'ont déjà fait, pourquoi pas vous? À tout âge, soyez volontaire dans une base pour 15 ou 19 jours. Vous vivrez des moments inoubliables. Donc après, il y a l'adresse Bureau National avec un numéro de téléphone, un site web. Et ben c'est Roger de Strasbourg et bonne journée.
Help! You say you're fucking fire, yeah, huh? Yeah. Are you okay? Get the fire? No, no, you fucking stay right there.
Why?
Are you religion to me? And you a fucking fighter? Is that what you are? Huh? Huh?
Yeah.
Yes.
Yeah.
You are a fighter.
Yeah.
Holy fucking
yeah.
What you said?
War and danger.
Continuing danger.
Hour of danger. Very, very dangerous world.
September 11th.
September 11th. September 11th.
Radical ideology of hate.
Un gardien du camp te dit, est-ce que tu sais ce que les Allemands ont fait aux Juifs? On va te traiter de la même façon.
C'est un Américain parlant allemand.
Tu, auparavant, tu avais entendu parler de Guantanamo? Guantanamo Bay.
Ich habe einen Freund gehabt, der eine Reise gemacht hatte in Guantanamo. Er hat mir auch viele Fotos gezeigt und viel von erzählt, dass es sehr schön war.
J'avais un ami qui avait déjà fait un voyage auparavant et qui m'en a parlé et qui m'a montré des photos et m'a dit combien c'est beau.
Ich war damals 19 Jahre alt, sie haben mir 5 Jahre von meinem Leben weggenommen.
À ce moment-là, j'avais 19 ans et ils m'ont pris 5 ans de ma vie.
Und daraufhin haben sie gesagt, ich bin auf einer karibischen Insel, ich sollte mich entspannen.
Et ils m'ont répondu que je suis dans les îles Caraïbes et que je devais me détendre.
I guess you want to be in these fucking things forever, huh? That's what you want to be? You want to be here for fucking ever? Don't fucking lie to me!
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si je suis avec Mourad Kurnaz dans l'enfer de Guantanamo.
Flight number 2, arriving from New York.
J'ai en face de moi un garçon très costaud, hein, qui fait de l'haltérophilie, qui est très très baraqué. C'était le cas déjà à l'époque, tu t'entraînais, tu étais très sportif.
Ich habe mit zwischen 7 und 8 Jahren angefangen zu trainieren. Ich habe mit Judo angefangen zu trainieren und habe sehr viele Kampfsportarten trainiert und Sport ist für mich sehr wichtig, was mir auch Spaß macht. Ist auch mein Hobby immer noch heute.
C'est déjà à l'âge de 7 ou 8 ans que j'ai commencé à faire de la musculation. J'ai fait du judo et je le fais toujours. Sport, c'est quelque chose que j'aime bien. Et...
Ça t'a permis de tenir le coup?
Ich glaube nicht. Also,
je ne crois pas.
Ganz im Gegenteil, ein Mensch, der mehr wiegt und braucht mehr Kalorien und mehr zum Essen. Das ist, ich glaube, vielleicht sogar schwieriger gewesen.
Je ne crois pas que c'est ce qui m'a permis de tenir bon, parce que quelqu'un qui est plus fort et qui a un entraînement comme ça, il a besoin de plus de nourriture et plus de sport pour tenir bon.
Außerdem haben die so Leidenheit, wenn sie gesehen haben, dass jemand kräftig ist oder stark, da haben sie auch durch Angst auch ein bisschen mehr geschlagen.
Et quand ils ont vu que quelqu'un est plus fort et plus costaud, ils ont des tendances plutôt à battre plus.
Da haben sie halt viel besser aufgepasst und jede Gelegenheit halt richtig reingenommen.
Comme ça, ils ont sauté à chaque occasion de me donner un coup.
Und das hat sich halt, das haben wir halt alles notiert und dementsprechend haben sie auch mich behandelt mit sehr viel Vorsicht.
Ils avaient noté tout ça et les plus faibles les traitaient avec un peu plus de prudence.
Est-ce que tes parents étaient au courant de ton arrestation, que tu étais à Kandahar, que tu étais en Afghanistan dans ce camp?
Irgendwann haben sie es erfahren, aber ich weiß nicht ganz genau wann. Wir durften keine Briefe schreiben, wir haben keinen Besuch gehabt, kein Telefonat, kein gar nichts, kein Anwalt.
Ils l'ont appris, mais je sais pas quand exactement, car nous avons pas droit d'écrire des lettres, d'avoir un contact quelconque.
Move it! Hands on your head! Don't move! Don't you fucking move! Move it, come on! Come on, move it, move it, move it! On your knees! Lie down, put your legs out!
Il m'arrivait de penser aux oiseaux que nous avions à la maison du temps où j'étais enfant et même adolescent. Quand je les voyais enfermés dans leur cage, j'avais parfois de la peine. Au camp X-Ray, les oiseaux s'approchaient souvent de moi car je leur donnais à manger des petites boulettes de mie-pain que je gardais dissimulées sous mes vêtements et sous mon matelas en cachette des gardiens. Au début, ils étaient craintifs. Mais au fur et à mesure, ils sont devenus plus confiants et certains se risquaient même à travers les mailles du grillage sur tous les petits sunsuncitos avec des plumes bleues, blanches et rouges et qui n'étaient pas plus gros que des sauterelles. Leur taille leur permettait de se faufiler à travers les grilles du camp. Et c'était une joie de les voir revenir vers moi. Un premier sunsuncito traversa le grillage, puis d'autres se lancèrent à leur tour et je leur parlais. Je leur disais, dans quel monde curieux nous vivons. Autrefois, vous étiez dans une cage et j'allais vous voir. Aujourd'hui, je suis dans la cage et c'est vous qui venez me voir. Celui qui parle ainsi, celui qui écrit ces lignes, c'est le Taliban de Brême. Le Taliban de Brême, c'est ainsi qu'on l'a surnommé en Allemagne. Et parce qu'il est né à Brême, et parce qu'on a cru qu'il était un taliban, on a fait croire qu'il était un taliban, ce qui n'est pas vrai, ce qui s'est avéré absolument faux. Et c'est son histoire qu'il raconte, son témoignage qu'il donne dans un livre chez Fayard qui s'appelle « Dans l'enfer de Guantanamo ». Et Mourad Kournaz est avec nous aujourd'hui, il a 24 ans maintenant, et il a passé 5 ans, dans l'enfer de Guantanamo. On peut dire l'enfer de Guantanamo, on a des reportages, des témoignages qui s'accumulent sur ce lieu de non-droit où des soupçonnés, on peut pas dire des accusés puisqu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tribunal, simplement des hommes sont enfermés dans ce camp de Guantanamo et Mourad Kournaz il y a passé donc 5 années. Pour situer un peu le bonhomme qui est en face de nous aujourd'hui, il est né en Allemagne de parents turcs. À 18 ans, il n'a pas opté pour la nationalité allemande et c'est un adolescent un peu idéaliste et juste après le 11 septembre 2001, il décide de partir au Pakistan. Il est musulman, très très croyant, et il décide de partir au Pakistan pour conforter sa religion, sa foi dans une madrasa près de Peshawar. Et là, il va y passer 2 mois. Et au moment de son retour, quand il revient avec les cadeaux pour la famille, avec son billet d'avion de retour, etc., il va être arrêté par les forces de police pakistanaises. Il va être maltraité, puis vendu, littéralement vendu, c'est ce qu'il affirme, aux autorités, aux services américains, qui vont d'abord le transférer à Kandahar, en Afghanistan, puis ensuite à Guantanamo Bay, à Guantanamo. Et c'est cette histoire qu'il raconte, parce que très vite, on va se rendre compte, avec torture, mauvais traitement, etc., etc., qu'il est innocent. Et les autorités américaines vont le faire savoir aux autorités allemandes, et les autorités allemandes vont bloquer le retour de Murat Kurnaz. C'est donc une affaire politique importante en Allemagne, et c'est bien évidemment une page particulièrement pathétique et dramatique de ce qui a été initié au lendemain du 11 septembre 2001, c'est-à-dire la guerre contre la terreur. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, avec Murat Kurnaz, dans l'enfer de Guantanamo.
Pull out in the automatic, rat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a
addict. Push up on the set, it's a homicide, and I dead it. I bet it's delivered, deeply embedded into his head. It's conniption, control, two tons of emotion. I said it off and it's orphan, like Kenny Dorfman. I'm tossed out from the field. You see, it's the international slicer, monster slasher, Paul Lasser. Section wrecking like Tekken, karate fight, rhyming, rapping. Move out with special protection. My special move, my spinning glass, I rotation the words into a boomerang, retrieving the thing. Deadly incision, blood sucking vampire bat thing. Show up Bay Area werewolf in London or around the UK. Well, the wolf howl, eat shit and don't be away. My mangle style deform the artist, leaving his Lexus in his Lexus with an ugly bra, smelling like Nexus. Using Humex and smoking Marlboros. AIDS infectious, weighing less than your Rolex. She'll share the needle. I know I'm not addicting a second. That's why I keep on inflecting and return. Different human being keeps ripping. Terrorists, 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 terrorists. T-E-R-R-O-I-S.
Alors pourquoi vous décidez de partir au Pakistan? Vous aviez 19 ans.
Ich war dort auf einer Schule von Jamaat al-Tabligh.
J'étais à une école de Jamaat al-Tabligh.
Ce qu'on appelle le Tablir.
Jamaat al-Tabligh. Die Jamaat al-Tabligh gibt's überall auf der Welt, nur deren originale Abstammung ist aus Pakistan.
Cette école est dans le monde entier et l'origine est le Pakistan.
Und ihre größte Schule ist in Pakistan.
L'école la plus grande est au Pakistan.
Ich habe Jamaat al-Tabligh in Bremen kennengelernt. Sie gibt es überall auf der Welt. Sie haben kleine Gruppen, die sich aufhalten in Bremen. Ich habe sie dort kennengelernt und die haben mir halt von Pakistan erzählt, von ihrer Schule, dass man dort Unterricht nehmen kann für mehrere Monate oder Wochen.
J'ai connu des petits groupes à Brême et ils m'ont parlé des écoles, de l'école au Pakistan. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller pour prendre des cours.
Oui, votre départ au Pakistan, c'était le 3 octobre 2001, c'est-à-dire très très peu de temps après le 11 septembre.
Ich hatte meine Reise schon vor dem 11. September geplant gehabt.
J'avais planifié le voyage déjà avant le 11 septembre.
Und daher habe ich auch nichts daran geändert, auch nach dem 11. September.
C'est pour ça que je n'ai rien changé, même après le 11 septembre.
Ce séjour au Pakistan, c'était où? C'était à Lahore?
In Mansoor Center, Lahore.
Au centre Mansoor de Lahore.
Est-ce que vous aviez le projet ensuite de passer en Afghanistan ou vous vouliez rester simplement au Pakistan dans cette école?
Ich hatte mir Ich hatte nie vor, nach Afghanistan zu reisen.
Je n'avais pas l'intention d'aller en Afghanistan.
Und Geschenke von meinen Eltern von der Reise schon alles eingepackt und in der Tasche. Und mein Rückflugticket hatte ich auch schon bereit nach Deutschland.
J'avais déjà mon ticket de retour pour l'Allemagne. J'avais des cadeaux pour mes parents dans mes bagages.
Et c'est là que vous avez été arrêté.
Ich war im Bus, in einem normalen Bus zum Flughafen.
J'étais dans un bus allant à l'aéroport.
Ich dachte, das ist nur eine ganz normale Passkontrolle. Ich habe dir mein Visa gezeigt, was ich hatte noch mehrere Wochen, bis es ablaufen würde.
Je pensais que c'était un contrôle de passeport. Je leur ai montré le visa qui valait encore pour quelques semaines.
Und ich dachte, die würden nach dieser Passkontrolle mich einfach gehen lassen.
J'avais cru qu'ils allaient me la relâcher après ce contrôle de passeport.
Aber ich habe nicht gewusst, dass die Amerikaner Kopfgeld ausgesetzt hatten.
Je ne savais pas qu'ils avaient misé sur ma tête, les Américains.
C'est-à-dire que ce que vous dites dans le livre, c'est que vous avez été vendu par les services pakistanais aux autorités militaires américaines.
Das war deswegen in Pakistan sind $5,000 sehr viel Geld.
5000 Dollar au Pakistan sont beaucoup d'argent.
Und deswegen haben sie jeden Ausländer, fast jeden Ausländer, den sie konnten, festgenommen und an die Amerikaner verkauft.
Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté le plus d'étrangers possible pour les vendre aux Américains.
Comment vous savez que vous avez été vendu?
C'est les avocats qui ont écrit des lettres et nous ont raconté cette histoire de prime.
Da habe ich die Amerikaner im Verhör gefragt. Also, ich habe gesagt, dass die mich für $5,000 gekauft haben. Da haben sie gesagt, nein, es waren nur 3.
Pendant le procès, j'ai demandé aux Américains pourquoi ils m'ont vendu pour $5,000 et puis ils ont dit, mais non, c'était seulement 3,000.
Alors, vous avez été donc arrêté à Peshawar au Pakistan, vendu aux forces américaines qui vous transfèrent en Afghanistan à Kandahar. C'est là que vous avez été mis en contact avec les forces spéciales allemandes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et ce qui s'est passé?
Es war so, es ist nicht, die KSK ist nicht für mich gekommen, sondern sie waren sowieso schon da und hatten dort patrouilliert.
Le KSK n'est pas venu pour moi, il était déjà dans la région.
Ça veut dire que les autorités allemandes ont très rapidement su que vous étiez détenu par les forces américaines.
Ja, das wussten sie auf jeden Fall.
Oui, ils le savaient en tout cas.
À quel moment vous avez été transféré à Guantanamo?
Also, das war inzwischen, ich weiß nicht ganz genau welchen Monat noch, aber es war, also ich muss hier noch erwähnen, wir haben die Uhrzeit wissen dürfen, wir haben keine Uhren haben dürfen und wir durften auch nie nach die Uhrzeit fragen oder Datum, sonst was. Und nur ich bin circa ein paar Monate in Kandahar geblieben.
Je suis resté quelques mois au Kandahar, mais on n'avait pas droit d'avoir des montres, on savait pas l'heure, on n'avait pas droit de demander. Je peux pas le dire exactement.
Comment vous étiez traité à Kandahar?
Jeder wurde gleich behandelt. Sie haben uns hungern lassen und sie haben uns der Kälte ausgelassen, also zum Teil ohne Kleider. Und
chacun a été traité de la même façon et nous ont laissé affamés, on nous a exposés au froid, en partie privés de vêtements.
Also sie haben uns gefoltert bis so viel sie konnten und einige sind sogar dabei gestorben durch diese Folter.
Ils nous ont torturés tant qu'ils pouvaient et il y en avait des morts.
Ich selber wurde bei Ketten aufgehängt für mehrere Tage. Mit Zwischenpausen haben sie mich runtergebracht, damit ich nicht sterbe, sondern dass der Arzt gekommen hat, geguckt, ob ich noch am Leben bin und noch aushalten kann. Dann haben sie mich wieder aufgehängt. Das ging für ein paar Tage so.
Ils m'ont suspendu par des chaînes et m'ont laissé comme ça. Puis ils sont venus regarder si je vis encore. Après, ils ont recommencé.
Es waren fast immer die gleichen Fragen. Also es waren eigentlich nicht Fragen, sondern es waren Sachen, die sie von uns hören wollten.
C'était à peu près toujours les mêmes questions. En fait, c'était pas des questions, mais ils voulaient entendre de nous certaines choses.
Sie haben gesagt, du bist von Al-Qaida, und wenn ich nein gesagt habe, haben sie geschlagen.
Ils ont prétendu que j'appartiens à Al-Qaïda et quand j'ai dit non, ils m'ont battu.
C'est ça qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient se prouver que tu appartenais à Al-Qaïda.
Ja, sie wollten, dass ich halt Papiere unterschreibe oder sage, dass ich von Al-Qaida bin. Und immer wieder, wenn ich Nein gesagt habe, haben sie halt geschlagen.
Ils voulaient que je signe des papiers comme quand j'appartiens à Al-Qaïda et quand je l'ai pas fait ou quand j'ai dit non, ils m'ont battu.
Sie haben halt getreten oder mit der Faust geschlagen und mich auf Ketten aufgehangen.
Ou bien ils ont m'ont foulé aux pieds ou battu avec les poings ou ils m'ont suspendu avec les chaînes.
Dans son livre témoignage, Mourad Kournaz décrit ce qu'il a subi à Kandahar, et il n'est pas le seul. Il y a d'autres témoignages qui concourent et qui convergent. Il y a un film qui s'appelle Road to Guantanamo qui raconte une histoire tout à fait semblable, sauf que ce sont de jeunes Anglais qui passent par les mêmes endroits et qui subissent les mêmes choses. Aujourd'hui, Mourad Kournaz, revenu en Allemagne, porte plainte avec ses avocats contre les forces spéciales allemandes, contre le KSK qui était présent donc à Kandahar et qui a participé à ces interrogatoires. Il faut mettre évidemment interrogatoire entre guillemets puisqu'il s'agissait plus de torture que d'interrogatoire. On était dans les semaines qui suivait le 9 septembre, on était dans les jours qui ont suivi l'offensive en Afghanistan, et la pression, la revanche, ce qui était rien d'autre qu'une revanche, the war on terror, la guerre à la terreur, était dans toute son avancée, on peut dire. Et il décrit donc ces choses d'une façon tout à fait terrifiante dans ce livre, et donc dès le départ, il faut bien garder ça en tête, les autorités allemandes savaient qu'il était là, dans ce camp de Kandahar. L'histoire de Mourad Kournaz est connue, et notamment de Patti Smith, qui lui a consacré un chant. Finalement, tu as été transféré à Guantanamo. Est-ce que tu peux raconter ce transfert?
Sie haben uns lange Zeit vor dem Transport nichts zu essen gegeben.
Longtemps avant le transport, ils n'ont pas donné à manger.
Dann haben sie uns die Augen gefesselt.
Et puis ils nous ont bandé les yeux.
Und Ohrschutz aufgetragen.
Ohrschutz.
Also, damit man nichts hören kann.
Mis un bandeau sur les oreilles aussi pour qu'on n'entende pas.
On a des masques.
Womit
sie die Nase und Mund geschlossen haben.
Pour fermer le nez et la bouche.
Und uns halt gefesselt und Handschuhe aufgebracht, damit wir auch nichts anfassen können.
Et ils ont été ficelés, ils avaient des gants pour ne pas toucher quelque chose.
Wo die ganzen Finger in ein Stück drin sind.
C'est des gants spéciaux pour qu'on touche rien à cette, les wrestlingen, non?
Yeah, yeah.
Oui, comme des moufles plutôt.
Und dann haben sie uns halt mit sehr vielen Ketten gefesselt im Flugzeug.
Ils nous ont enchaînés dans l'avion.
Und dann ging das halt, dann ging die Reise los und.
Depuis le voyage a commencé.
Est-ce qu'on vous a dit où vous alliez? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi vous étiez là?
Die haben halt nur Witze gemacht, wo sie uns ins Flugzeug gebracht haben. Die haben gesagt, ja, wir bringen dich irgendwo hin, wo wir dich abschießen und sonst was.
Ils ont fait des blagues dans l'avion et ils ont dit, on va te mettre quelque part ou on va t'exécuter.
Les autres prisonniers venaient d'où?
Aus 42 anderen Ländern.
De 42 autres pays.
International.
Tu, auparavant, t'avais entendu parler de Guantanamo? Guantanamo Bay?
Ich habe einen Freund gehabt, der eine Reise gemacht hatte in Guantanamo. Er hat mir auch viele Fotos gezeigt und viel von erzählt, dass es sehr schön war.
J'avais un ami qui avait déjà fait un voyage auparavant et qui m'en a parlé et qui m'a montré des photos et m'a dit combien c'est beau.
Wo ich angekommen bin, da haben sie erstmal haben sie uns geschlagen. Und
quand je suis arrivé, ils ont commencé par me battre.
Später haben sie aufgehört zu schlagen, haben sie uns auf dem Boden knien lassen und Fotos von gemacht.
Puis ils ont arrêté de nous battre et ils nous ont forcé de nous agenouiller par terre et ils ont commencé à prendre des photos.
Dann haben sie uns halt irgendwann in einem Bus gesteckt und mit diesem Bus sind wir in eine Fähre gefahren, ein Schiff.
Et après, ils nous ont embarqué dans un bus. Avec ce bus, on est allé sur un bac.
Das habe ich alles wissen können, obwohl meine Augen zu waren, aber da bin ich mir ganz sicher.
Je suis tout ça malgré les yeux bandés, mais j'en suis sûr.
Und ja, dann haben sie uns irgendwann halt wieder die Augen aufgemacht vor irgendwelchen Käfigen.
Et puis, ils nous ont ouvert les yeux devant des cages.
Et puis?
Ja, dann ging das halt weiter. Wir mussten in diese Käfige rein.
Ils nous ont forcé d'entrer dans ces cages.
Es sind halt diese ganz gewöhnlichen Hundekäfige, die jeder von uns kennt.
Ce sont les cages normales pour les chiens que tout le monde connaît.
Tu dis dans le livre, dans l'enfer de Guantanamo, tu dis que un gardien du camp te dit, est-ce que tu sais ce que les Allemands ont fait aux Juifs? On va te traiter de la même façon.
C'était un Américain parlant allemand.
Ah bah, c'est vrai.
Mais c'est vrai.
Alors là, les interrogatoires ont commencé. Tu racontes dans le livre toute une série d'interrogatoires, toute une série de tortures que tu subis, que subissent les autres détenus, qui vont depuis l'électricité, la pendaison, la privation de sommeil. Au moment où vous voulez faire votre prière, on a l'hymne américain qui est diffusé dans des haut-parleurs. Est-ce que tu peux raconter un peu tout ça en quelques mots?
Ja, natürlich. Das war, sie haben halt fast bei jedem unterschiedliche Foltermethoden angewendet und aber es fast bei jedem getan.
Ils ont utilisé des formes de torture différentes pour les différentes personnes, mais ils ont torturé tout le monde.
Und also ich selbst mich haben sie mit der Elektrizität zum Beispiel gefoltert.
Moi-même, ils m'ont torturé avec de l'électricité.
De quelle façon?
Aus Metall und da war noch ein Box dran gebunden, wo dann Kabel zu diesen Bügeln führen. Und dann haben sie das aneinander gerieben. Aus Metall halt.
C'était des barres de métal et c'était, il y avait des câbles électriques branchés dessus et puis ils ont frotté.
Torture à l'électricité.
Teilweise Metall mit Plastikgriffen und sonst was.
Qu'est-ce qu'on voulait te faire dire? Quelles étaient les questions qui t'étaient posées?
Was wollten sie aus dir heranspringen?
Die wollten, dass ich erstmal ein Papier unterschreibe.
D'abord, ils voulaient que je signe un papier.
Und erstens, ich konnte diese Papiere nicht mal lesen, das war nicht auf meine Sprache.
D'abord, je pouvais pas lire, c'était pas ma langue.
Aber ich konnte sehen, dass da viele Wörter drin standen mit Al-Qaida, Taliban und sonst was.
Ce que j'ai compris, c'est qu'il était souvent question de Taliban et d'Al-Qaida.
Ich war damals 19 Jahre alt, sie haben mir 5 Jahre von meinem Leben weggenommen.
À ce moment-là, j'avais 19 ans et ils m'ont pris 5 ans de ma vie.
So, dies, alles andere mit dieser Elektrizität und so, das war nur vorübergehend.
Et toutes les autres choses, avec l'électrification par exemple, c'était quelque chose d'éphémère.
Aber diese Jahre, die sie mir weggenommen haben, von meiner Familie, weit weg, das wird mir natürlich keiner ersetzen können. Und das ist ein anderes Folter, das wahrscheinlich kein anderer versteht.
Et ces années que, dont ils m'ont privé, loin de ma famille, c'est quelque chose que personne ne peut comprendre.
Les premières images donc de la base de Guantanamo à Cuba, où sont détenus les plus méchants des membres d'Al-Qaïda et du mouvement taliban, pour reprendre l'expression d'un officiel américain.
Terroriser le terrorisme, c'est se comporter en terroriste et c'est fabriquer des terroristes. Le livre de Mourad Kournaz dans l'enfer de Guantanamo décrit ce qui s'est passé sur cette base, vous le savez, qui est une enclave dans l'île de Cuba, où depuis le début de 2002 sont enfermés des hommes soupçonnés ou accusés d'être des terroristes, de collaborer avec Al-Qaïda, avec Ben Laden, etc. Mais sauf que la plupart de ces hommes sont innocents ou n'ont rien à voir avec cette histoire, et la façon dont ils sont traités est hors des droits les plus élémentaires. Récit de Mourad Kournaz. Tu racontes dans ton livre que parmi les moyens de pression et dans les interrogatoires, il y avait des femmes qui vous provoquaient sexuellement.
Ja, sie haben es halt versucht, dass sie haben alle möglichen Methoden versucht anzuwenden, damit sie uns erpressen können, oder das war auch eine andere Art von Folter. Natürlich, sie wussten, dass wir als Moslem sowas nicht machen, und deswegen haben sie es auch angewendet.
Ils ont essayé différentes choses, et ça aussi, ils savaient que le musulmans, ils n'avaient pas droit de réagir à ceci.
Tu dis dans ton livre que des médecins assistaient aux tortures. Pourquoi exactement?
Weil der erste, zum Beispiel, wo ich auf Ketten gehangen habe, da haben sie mich immer wieder runtergenommen und geguckt. Die Ärzte sind gekommen, haben uns unsere Finger auf die Finger gedrückt, Fingernägel, und geguckt, ob wir es noch durchhalten. Puls gemessen oder sonst was und uns in die Augen geschaut mit Lampen, damit sie wussten, ob wir noch weiterhin Folter aushalten können oder dass wir jetzt sterben werden und dass die eine Pause einlegen müssen.
Oui, par exemple, quand ils ne suspendaient pas les chaînes, il y a des médecins qui sont venus vérifier où on en est, ils ont appuyé sur les ongles, ils ont regardé avec la lumière dans les yeux, ils ont pris le pouls pour savoir combien de temps on tiendrait encore, si le possible de continuer encore.
Tu arrives à Guantanamo en janvier 2002, et à partir de septembre 2002, les services américains considèrent que l'innocence est établie, selon les pièces et selon les documents auxquels on a pu accéder.
Es war im 2002 schon klar, dass ich unschuldig bin.
C'était déjà clair en 2002 que j'étais innocent.
Und die Amerikaner haben auch die deutschen Behörden angeboten und gesagt, ihr könnt kommen und Mourad Kournaz abholen.
Et les Américains ont proposé aux autorités allemandes de venir chercher Mourad.
So, da haben die Deutschen gesagt, wir haben kein Interesse und dass sie mich nicht haben wollen würden.
Et puis les Allemands ont dit qu'ils ne sont pas intéressés et qu'ils ne voulaient pas de moi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en septembre 2002, les services américains considèrent que Mourad, que tu es innocent, qu'il n'y a aucune charge contre toi. Ils le font savoir aux services allemands. Les services allemands sont également persuadés de ton innocence, mais ils te laisseront encore 4 ans dans ce camp.
Circa 4 Jahre noch, 4,5 Jahre noch.
À peu près 4 ans et demi encore.
Est-ce qu'à l'intérieur de Guantanamo, tu pouvais comprendre tout ça?
Ich habe das erst circa 4 Jahre später erfahren.
Non, j'ai appris ça seulement 4 ans après.
En 2006.
2006, ja.
Selon toi, quelle est la part d'innocents parmi les détenus de Guantanamo? Quels sont ceux qui, effectivement, sont des combattants? Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une faute. et quels sont ceux qui n'ont vraiment rien à voir avec le djihad et avec le combat. Est-ce que t'as une idée du pourcentage?
Diese Leute, die mit Dschihad zu tun haben, die haben das auch ganz offen und ehrlich erzählt. Die haben das nicht verschwiegen.
Les gens qui sont engagés dans le djihad, ils n'ont pas tu ceci, ils ont parlé ouvertement de leur engagement.
Es waren wenige und die waren auch bekannt zwischen uns.
Et, il n'y en avait que peu, mais eux, ils étaient connus entre nous.
Also wer von der Taliban war, hat gesagt, ich bin von Taliban, ganz stolz.
Et ceux qui s'appelaient Taliban, ils le disaient fièrement de l'être.
Und haben es auch den ganzen Wärtern nochmal erzählt, meinten, wenn ich hier rauskomme, werde ich euch töten.
Et ils ont dit, ah, le jour où je sortirai d'ici, je vais vous tuer.
Das war den Amerikanern bekannt und auch zwischen uns waren diese Leute bekannt halt.
Les Américains les connaissaient, nous aussi.
Journey to Pakistan to read the Quran. Taken into custody with no reason why. Sent to the prison camp with nothing for me. As an enemy combatant, an enemy.
Est-ce que tu avais un avocat?
Ich hatte einen Anwalt, von dem ich auch nie gewusst habe, den ich erstes Mal 2004 oder 2005 gesehen habe und sprechen durfte.
J'avais un avocat, mais je n'étais pas au courant. Je l'ai vu pour la première fois en 2004-2005.
Le personnage qui est visé en Allemagne, c'est un certain Frank-Walter Steinmeier, qui, à l'époque, en 2002, était chef de la chancellerie fédérale de Gerhard Schröder, et qui, lui, a refusé ton retour pour ne pas être soupçonné de soutien au terrorisme international. C'était ça la raison.
Ja, aber kein einziges Gerichtsurteil hatte ja gesagt, dass ich ein Terrorist bin.
Mais il n'y avait pas un seul jugement qui a dit que j'étais terroriste.
Er hat das Sagen gehabt damals über meine Geschichte und er hat die Entscheidung getroffen, dass ich weiterhin dort bleibe.
C'est lui qui avait droit de décider en ce qui me concerne et c'est lui qui a décidé que je reste.
Und das alles ohne irgendeinen Beweis gegen mich zu haben.
Et tout ça sans avoir aucune preuve contre moi.
Und aus ohne irgendeinen Grund.
Et sans aucune raison.
Pendant ce temps-là, il y avait des agents des services allemands qui venaient à Guantanamo et on était au courant de ce qui se passait. On savait très bien quelle était ta situation de l'extérieur du point de vue des services allemands, comme des services américains, et du gouvernement fédéral allemand.
Das wussten Sie ganz genau. Ich habe den. Das wussten Sie auf jeden Fall, weil erstens die KSK war schon in Kandahar. Sie haben selber gesehen, was da wie die Gefangenen behandelt werden.
Oui, il le savait très bien. Le KSK était à Kandahar. Il savait aussi ce qui s'est passé là-bas.
Und auch wo sie mich in Guantanamo besucht haben, habe ich denen ganz genau erklärt, wie ich behandelt werde und was es für Foltermethoden dort gibt.
Et quand ils m'ont rendu visite à Guantanamo, je leur ai dit exactement ce qui s'est passé.
Und daraufhin haben sie gesagt, halt, ich bin auf einem karibischen Inseln, ich sollte mich entspannen.
Et ils m'ont répondu que je suis dans les îles Caraïbes et que je devais me détendre.
Pour revenir à Frank Walter Steinmeier, aujourd'hui il est ministre des Affaires étrangères du gouvernement Angela Merkel. Est-ce que tu l'as rencontré?
Steinmeier? Nein. Hat nur gesagt, dass sein Verhalten richtig war und wenn es nochmal passieren würde, würde genau dasselbe tun.
Il a seulement dit que son comportement était correct et si le cas se posait encore une fois, il ferait la même chose.
Dass sich auch niemals entschuldigen wird, weil eine Entschuldigung wäre nur für eine falsche Tat da und dass nichts falsch getan hat.
Et il ne veut pas non plus s'excuser parce qu'une excuse, ça signifierait qu'il a mal agi, mais comme c'est pas le cas, il ne
veut pas le reconnaître. On dit que c'est Madame Angela Merkel qui a permis ta libération. Elle en aurait parlé au président américain Bush. Est-ce que c'est vrai?
Das stimmt.
Oui, c'est vrai.
Nur sie steht heute hinter Steinmeier.
Mais elle défend Steinmeier aujourd'hui.
Qui est son ministre des Affaires étrangères.
Yeah.
Arrivé en Allemagne, tu as pu retrouver ta famille tout de suite ou bien?
Wir sind auf einem amerikanischen Stützpunkt gelandet.
Nous sommes arrivés dans une base militaire en Allemagne.
Da sind drei zivile Polizeibeamten gekommen, deutsche Polizeibeamten.
Il y avait trois policiers allemands qui se sont présentés.
Und hatten schon mit ihren Wagen genau vor diesem Flugzeug geparkt, vor diesem Militärflugzeug.
Et ils avaient attendu avec les voitures devant cet aérodrome.
So, wir sind runtergelaufen, ich musste runterlaufen, da haben sie mich ganz unten am Flugzeug, haben sie mir alle die Fesseln abgenommen, Augen aufgemacht.
Je suis descendu de l'avion, là ils m'ont délivré de mes bandes sur les yeux, de mes ligotements.
Und da haben die deutschen Beamten mir einen Brief in die Hand gegeben und meinten, dieses Brief wäre von meiner Mutter.
Depuis les Allemands m'ont donné une lettre et c'est une lettre de ma mère.
So, es stand auf diesem Brief, dass es deutsche Beamten sind und dass ich denen trauen kann, dass sie mich zu meiner Familie fahren werden.
Et là a été écrit qu'il s'agit d'Allemands en qui je pouvais avoir confiance et qu'ils allaient me conduire chez ma mère.
So, dann sind wir in diesem Wagen gestiegen und fuhren eine Weile. Dann habe ich meine Familie bei einem Roten Kreuz-Gebäude getroffen.
Et puis nous sommes montés dans cette voiture, il y avait un petit trajet à faire, et puis on s'est arrêté devant une station de Croix-Rouge, où j'ai rencontré ma famille.
So, ich hatte meine Brüder, meinen Mutter, Vater gesehen, und Anwalt.
Et puis là, j'ai vu mes frères, ma mère, mon père et mon avocat.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère?
Sie haben alle geweint, ja.
Ils sont tous pleuré.
Also, sie haben alle geweint. Ich habe nicht geweint und so.
Moi, je n'ai pas pleuré.
Ich weiß nicht, ob ich es verlernt habe, in Guantanamo diese Zeit lang zu weinen. Oder?
Peut-être j'ai oublié comment on pleure.
Ich konnte nicht weinen, aber.
Je n'ai pas pu pleurer.
Es war so halt, ich hatte mich gewundert, meine Frau, die ist nicht dabei gewesen.
J'étais étonné que ma femme n'était pas là.
Und ich wollte natürlich wissen, wo meine Frau ist. Ich wollte.
Je voulais savoir où elle était.
Ich wollte sie natürlich wenigstens anrufen.
Et je voulais au moins l'appeler.
So, ich wollte sie anrufen, damit sie kommt und dass wir uns sehen können.
Je voulais l'appeler pour qu'elle vienne et pour qu'on puisse se voir. Mon père m'a dit qu'on n'allait pas se voir.
So, habe ich gefragt, wieso nicht? Da meinte mein Vater, dass wir geschieden sind.
Et puis j'ai demandé pourquoi, et mon père m'a répondu qu'on était divorcés.
Also, die Freilassung, das war natürlich ganz schön, ein schönes Gefühl.
La libération, c'était un sentiment extraordinaire, mais...
Aber auch nicht so, wie ich es ganz genau erwartet hatte.
Mais c'était pas tout à fait ce que j'avais attendu.
C'était une nouvelle diffusion de l'entretien avec Mourad Kournaz du 13 septembre 2007. Traduction Irène Besson, à lire le témoignage de Mourad Kournaz dans l'enfer de Guantanamo aux éditions Fayard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Réalisation Coyenne Guyenne et Raphaël Mouterde. Assistante Charlotte Perry. Chef du répondeur Agnès Lebot. Et le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis 01 56 40 37 37.